Pression, est-ce que vous m'entendez? Pas beaucoup. Là, ça va mieux? Un, deux, voilà. Merci. Je disais que la méditation que nous allons avoir ensemble est partie à partir d'une expression qui m'est revenue, les humbles du pays. Les humbles du pays. Alors j'ai voulu retrouver cette expression, elle se trouvait dans le prophète Sophonie. Alors on va ouvrir ensemble ce prophète, s'il vous plaît. Sophonie, chapitre 2, verset 3. Sophonie, chapitre 2, verset 3. Alors, dans les petits prophètes, c'est parfois un peu plus difficile à trouver, c'est vers la fin. Hein, il y a Malachie, Zacharie, Agée, Sophonie, en partant de la fin. Hein, donc, avant l'évangile de Matthieu, c'est donc le quatrième livre avant l'évangile selon Matthieu. Sophonie, chapitre 2, verset 3. Sophonie 2, 3. Voilà ce qui est dit. Cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Amen. Quand j'ai relu ce verset, comme il est question de la colère de l'Éternel, de ce peut-être, j'ai relu le prophète Sophonie pour mieux comprendre cette expression, les humbles du pays à qui Dieu s'adresse. Cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays qui pratiquez ses ordonnances. Le livre de Sophonie annonce pour Juda que c'est trop tard, Juda sera jugé par Dieu. Et pourtant, on peut en être très étonné parce que le prophète Sophonie a prophétisé du temps du roi Josias. Et lors de ce roi Josias, il y a eu un réveil extraordinaire où Juda, semble-t-il, est revenu vers le Seigneur. En réalité, Josias est ce roi qui va mourir d'une façon inattendue. Et on verra bien que derrière Josias, en fait, le peuple n'avait pas vraiment changé de cœur. Et effectivement, ce que Sophonie et d'autres prophètes avaient annoncé va arriver. Le peuple de Juda va être envahi, Jérusalem va être pillée, et en fait, Dieu va vraiment juger son peuple. Et dans ce cadre-là, Sophonie parle du jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel, et le chapitre premier est même assez sévère, jour de l'Éternel durant lequel il ne restera aucun survivant sur la terre. Nous croyons en la fin du monde. Nous croyons que ce jour de l'Éternel correspond au jour aussi de Jésus-Christ, que le Seigneur va revenir. Et que là, le temps de la grâce sera terminé et qu'il n'y aura pas de survivants sauf ceux qui seront enlevés et qui auront cru au Seigneur Jésus. Et certainement que les humbles du pays parlent de nous chrétiens. Recherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays. Parce que malheureusement, alors les humbles du pays, c'est les pauvres, ce sont les gens modestes, et le prophète s'adresse à eux. Parce que tous ceux qui étaient nobles, qui étaient élevés en dignité, malheureusement, n'avaient pas cette attitude de recherche de Dieu. Et la leçon que nous pouvons retirer pour chacun d'entre nous, c'est d'avoir cette humilité pour chercher le Seigneur. Si nous voulons vraiment connaître sa grâce et non pas son jugement, il faut certainement descendre de l'estime que nous pouvons avoir de nous-mêmes et vivre humblement. Ici, il est dit, vous tous les humbles du pays qui pratiquez ces ordonnances. Alors, il y a peut-être parmi nous des personnes qui sont pauvres, qui sont humbles, alors pauvres même peut-être financièrement, mais surtout ce passage, ce mot, j'ai été le voir, il veut dire pauvre, humble, affligé, doux, malheureux, misérable. Il a été traduit « ceux qui souffrent », les patients. Bref, les pauvres du pays, c'est vraiment les malheureux et ceux qui intérieurement aussi sont pas bien. Et ce matin, il y a peut-être quelqu'un qui est comme cela, pauvre, démuni, malheureux, dans la tristesse. Eh bien, vous qui êtes dans cette situation, cherchez le Seigneur, obéissez à sa parole et vous serez sauvés. Le jugement ne sera pas sur vous. Alors justement, à ce propos, on va lire dans Deutéronome, chapitre 15 maintenant, pour voir ce que la loi disait des pauvres. Deutéronome, chapitre 15. On lira plusieurs passages ensemble. Deutéronome, chapitre 15, verset 1er. À l'époque, quand on était très pauvre, parfois, aujourd'hui on dit, il n'est pas solvable, tant pis. Mais à l'époque, quand quelqu'un avait fait un méfait, un crime, ou tout simplement dans sa vie avait fait faillite, il devait se vendre comme esclave. Et il payait un peu de sa vie, sa liberté en tout cas, ses fautes, ou alors son problème de pauvreté. Et tous les 7 ans, l'esclave juif devait être libéré. Parce que Dieu ne veut pas que l'on puisse payer pour nos fautes ou pour nos inconséquences toute notre vie. Il y avait un temps. Deutéronome, chapitre 15, verset 1er. On lit ensemble. « Tous les 7 ans, tu feras relâche. Et voici comment s'observera le relâche. Quand on aura publié le relâche en l'honneur de l'Éternel, tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain se relâchera de son droit. Il ne pressera pas son prochain et son frère pour le paiement de sa dette. Tu pourras presser l'étranger, mais tu te relâcheras de ton droit pour ce qui t'appartiendra chez ton frère. Toutefois, il n'y aura point d'indigent chez toi, car l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te fera posséder en héritage, pourvu seulement que tu obéisses à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en mettant soigneusement en pratique ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront point sur toi. S'il y a chez toi quelque indigent d'entre tes frères, dans l'une de tes portes, au pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. Mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. Garde-toi d'être assez méchant pour dire en ton cœur, la 7e année, l'année du relâche approche. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent et de lui opposer un refus. Il crierait à l'Éternel contre toi, et tu te chargerais d'un péché. Donne-lui, et que ton cœur ne lui donne point à regret, car à cause de cela, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent, dans ton pays. Amen. Amen. Alors, vous avez remarqué qu'il semble y avoir une contradiction. Au verset 4, Dieu dit, il n'y aura pas d'indigent chez toi. Il n'y en aura pas. Donc, le plan de Dieu, ce n'est certainement pas que dans nos vies, nous soyons pauvres, nous soyons malheureux, nous soyons en difficulté. Non, au commencement, quand Dieu a créé la terre, c'était très bon. Et ça a été le Dieu qui a béni l'homme et la femme. Donc le plan de Dieu, c'est que chacun d'entre nous, nous soyons bénis et enrichis de sa bénédiction. Alors Dieu dit à Israël, il n'y aura pas de pauvres, il n'y aura pas d'indigents dans ton pays. Bon, soit. Parce que parfois on peut dire, mais est-ce que c'est de la faute de Dieu si je me retrouve dans cette difficulté? Pourquoi Dieu me punit-il? Est-ce que Dieu a quelque chose contre moi? Non, Dieu est foncièrement bon. La Bible dit, un seul est bon, c'est Dieu. Bon, bienveillant, plein de grâce, de miséricorde. Donc, de telle sorte que son plan, c'est que nous tous, nous ne soyons pas indigents, mais heureux en lui. Et pourtant, il est dit après, ça c'était le verset 4, que tout cela dépendrait de l'obéissance à la loi. Il n'y aura pas d'indigent si tu observes mes commandements, si tu pratiques ce que je te demande. Et c'est là qu'est le problème. C'est que nous n'avons pas pu obéir à la loi. Nous ne savons pas obéir à la loi de Dieu. Même aujourd'hui, nous, chrétiens, depuis de si nombreuses années, nous n'arrivons toujours pas par nous-mêmes à obéir et à suivre les commandements de Dieu. Et cette promesse de non-indigence était conditionnée à l'obéissance à la loi. La Bible nous dit qu'il n'y en a qu'un seul qui a pu obéir à toute la loi, c'est Jésus-Christ. Mais que nous sommes tous des pécheurs. Et qu'il n'y a personne d'entre nous qui peut juger un autre, parce qu'en réalité, le seul juge, c'est Dieu. Et le seul qui a accompli sa justice, c'est son Fils, Jésus-Christ. Alors on comprend pourquoi, après que Dieu ait dit « Il n'y aura pas d'indigents si tu observes ma loi », eh bien, le verset 7 parle d'une autre éventualité, « S'il y a chez toi quelque indigent d'entre tes frères ». Alors Dieu dit « Il n'y en aura pas si tu obéis à la loi et s'il y a quelque indigent d'entre tes frères ». Alors, ça pourra quand même arriver. Quelqu'un dit, dans le Nouveau Testament, une phrase ressemble à cela, mais si je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point, mais si quelqu'un a péché, eh bien Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il est mort à la croix, pour que si nous confessons nos péchés, eh bien il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, le péché, c'est une dette. L'offense, c'est une somme. Dans le Nouveau Testament, il est écrit « Remets-nous nos dettes envers toi ». C'est-à-dire que, d'après la parole de Dieu, nous sommes tous devenus très indigents et très pauvres devant Dieu, endettés. Endettés à cause de nos péchés. Et quand c'est écrit ici « Mais s'il y a quelque indigent au milieu de toi, eh bien, si au milieu de nous il y a quelques pécheurs, Dieu est grand et bon pour nous pardonner par le sang de son Fils ». Comprenez, peut-être vous vous êtes dit ce matin, mais moi je ne suis pas très concerné, je ne suis pas si pauvre que cela. Si l'Esprit de Dieu nous convainquait tous, je pense que nous mesurerions davantage nos péchés, nos fautes, et aurions bien besoin du Seigneur en le cherchant, parce que nous deviendrions plus humbles, de ces humbles du pays que Dieu interpelle pour dire « Cherchez ma face, vous tous les humbles du pays ». Si nous sommes des pécheurs, alors nous avons besoin de chercher le Seigneur. Et puis dans ce passage, non seulement il y a l'éventualité, mais alors encore pire, au verset 11, Dieu semble dire le contraire de ce que nous avons lu au verset 4, « Il y aura toujours des indigents dans le pays ». Voilà. Il y aura toujours. Alors Dieu commence par dire « Il n'y aura pas ». Il continue en disant « Il se peut que ». Et il termine enfin en disant « En réalité, il y en aura toujours ». Alors je crois que c'est peut-être aussi quelque chose d'intéressant pour chacun d'entre nous. Nous ne sommes pas dans un monde idéal. Nous ne sommes pas dans une église idéale. Nous ne sommes pas encore dans le ciel. Tant que nous serons sur la terre, la volonté parfaite de Dieu ne s'accomplira pas. D'ailleurs, la prière, c'est écrit « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Si donc nous devons régulièrement, voire chaque jour, prier pour que la terre ressemble au ciel, c'est bien la preuve qu'il y aura toujours un décalage. Et qu'en réalité, entre ce que Dieu veut, pas d'indigent, et ce qui sera en réalité, il n'y en aura toujours, il y aura forcément une différence. Nous devons faire attention de ne pas être perfectionniste ou idéaliste, mais d'accepter que bien des anomalies auront lieu dans nos vies, dans notre parcours. Et Dieu, qui est parfait, est condescendant et demande aux hommes de lui ressembler quelque part. Il dit aux hommes, occupez-vous des pauvres. Je sais, je n'en veux pas, il ne devrait pas y en avoir, mais il y en aura toujours. Entraidez-vous, aidez-vous les uns les autres dans cette situation. Voilà. Alors, je crois que c'est bon de retenir pour nous tous qu'au fond, entre pécheurs, on ne peut que s'entraider. Dans toujours le livre du Deutéronome, on peut aller au chapitre 8, versets 2 à 5. Deutéronome, chapitre 8, versets 2 à 5, au sujet de cette pauvreté. Voilà quelque chose qui est curieux. Chapitre 8, verset 2 du Deutéronome. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Amen. Amen. Là, Dieu nous apprend ici qu'il a voulu faire connaître à son peuple la pauvreté, la misère, la difficulté dans le désert. Alors, cela va un petit peu aux antipodes de nos conceptions. Nous pensons que quand nous venons à l'Assemblée, que nous sommes chrétiens, forcément, alors tout va être favorable, bénéfique. En réalité, ici, Dieu a emmené son peuple dans un affreux et terrible désert, pour y faire connaître non pas la richesse, non pas l'abondance, mais la difficulté, l'aridité, la pauvreté, pour un travail plus profond dans les cœurs. Et ce qui compte pour nous, c'est que Dieu nous conduise comme il le veut, où il le veut, pourvu qu'il puisse atteindre plus profondément notre cœur, notre vie. Afin que tu connaisses, que je connaisse les véritables dispositions de ton cœur. Que je saurai si oui ou non tu continuerais à m'obéir dans ces moments difficiles. Vous vous rappelez Job ? Job a refusé de renier Dieu. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Mais il a décidé de glorifier Dieu dans le pire moment de sa vie. Et ici, Dieu a conduit son peuple dans le désert pour changer son cœur, pour... Et puis en même temps, Dieu dit, c'est vrai que je t'ai amené dans un désert et ça a été difficile, mais reconnais quand même que j'ai toujours été avec toi et que j'ai veillé sur toi. Alors là, c'est des choses qui sont difficiles pour nous à comprendre. Quand un chrétien est malade, tout de suite on veut que Dieu le guérisse. Mais avec évidence, nous avons des témoignages de chrétiens que Dieu n'a pas guéri, mais pourtant, Dieu était vraiment avec eux. Les a accompagnés, leur a fait du bien. Et ils s'en sont sortis, parfois grâce à des traitements, des opérations, mais même parfois dans certaines opérations, c'est vrai que ce n'est pas une guérison divine, dans le sens où quand l'homme intervient, ce n'est pas une guérison miraculeuse, mais néanmoins, que de fois nous avons vu que même dans des processus médicaux, humains, Dieu a béni. Dieu était là. Et je crois que Dieu fait aussi réussir certaines interventions chirurgicales. Tout est entre ses mains. C'est ce que Dieu dit. Je t'ai emmené dans le désert, ça a été difficile pour toi, mais reconnais quand même que j'ai été fidèle, que j'ai été bon, que j'ai veillé sur toi. Vous savez, je crois qu'il faut faire attention, quand on passe par des moments difficiles, de croire que Dieu nous abandonne ou qu'il n'est plus là. Ce n'est pas parce que Dieu nous fait passer par un affreux désert que c'est ni son plan et qu'il nous abandonnerait. Je crois au contraire que Dieu est avec nous en Emmanuel, son Fils. Alléluia. Et c'est vrai que Dieu a éprouvé son peuple, mais qu'il a en même temps soutenu. Alors au verset 10 de ce même chapitre, on peut relire jusqu'au verset 16, s'il vous plaît, si vous êtes resté à la page, Deutéronome 8, 10, « Lorsque tu mangeras et te rassasiras, Tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Amen. Vous voyez, la pauvreté que Dieu permet, dans laquelle parfois même Dieu nous conduit, c'est pour en fait éprouver nos cœurs et nous rapprocher de lui. Tandis que l'abondance, la richesse, la réussite est dangereuse. Dieu dit, prends garde, quand ça ira mieux, que ton cœur ne s'enfle. Alors, je crois que nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Nous devons tous veiller à ce que quand il y a des choses qui vont mieux dans notre vie, que quand nos richesses s'accroissent, nous ne nous éloignons pas du Seigneur. Et ici, l'Écriture dit, je t'ai fait manger une manne que tu ne connaissais pas et que n'ont pas connu tes pères. Je crois que Dieu veut nous faire connaître avant tout la richesse de sa parole. Et parfois dans la vie, Dieu nous enlève des choses auxquelles nous tenons, des choses importantes. Dieu nous enlève parfois même presque tout pour nous faire revenir au secours de sa parole. Pour nous faire revenir à une relation avec Jésus-Christ, plus personnelle. Qu'avons-nous besoin dans nos moments difficiles? Certainement pas de promener des regards inquiets, mais de plonger nos regards dans sa sainte parole. Quand nous ne savons plus où nous en sommes, nous n'avons certainement besoin d'une chose, c'est d'avoir des réponses. Parce que Dieu parle. Dieu n'est pas une idole muette. Et Dieu ne parle pas que dans l'Église, par des dons de l'Esprit. Il parle essentiellement par sa parole, dont nous nous nourrissons et que nous lisons régulièrement. Si nous nous nourrissons de Jésus-Christ et de sa parole, dans le désert, nous survivrons. Quand les choses sont plus faciles, dans la vie humaine, mais peut-être aussi dans la vie chrétienne, nous sommes portés, parfois portés par l'Église ou portés par d'autres choses. Mais il y a des moments où Dieu veut nous apprendre à le trouver lui et avoir des convictions qui nous sont tout à fait personnelles, pas des convictions pour s'opposer aux autres, mais des convictions pour savoir quel est le chemin qui est à prendre. Alors au sujet de la richesse, de la pauvreté, hein, il est dit, ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance je ne te renie, et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Voilà. Donc, au niveau de notre vie matérielle, nous ne voulons pas être riches, nous ne voulons pas être pauvres non plus. Nous voulons que Dieu nous donne la vie qui sera la plus favorable à la piété. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, notamment avec YouTube, Internet, etc., rêvent de faire fortune en peu de temps, d'une façon très rapide. La Bible dit que nous ne devons pas appliquer notre cœur à la richesse, que nous ne devons même pas y penser. Mais ce qui compte, c'est de nous nourrir du Seigneur et de le suivre, d'être dans sa communion. Les choses matérielles et la richesse devraient être secondaires. Si Dieu vous bénit, tant mieux. N'y attachez pas votre cœur. C'est tant mieux. Mais ça ne doit pas être notre recherche. Parce qu'une vie aisée peut parfois nous détourner du Seigneur. Alors lisons dans Matthieu chapitre 5, versets 3 à 5, pour relire cette pauvreté intérieure. Matthieu chapitre 5, versets 3 à 5. Matthieu chapitre 5, verset 3. Alors là aussi, c'est détonnant. Une logique à contre-pied. Matthieu chapitre 5, verset 3. Il est dit, heureux, alors nous dirions les riches, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Amen. Les humbles du pays. Jésus, dans son premier grand discours, l'entame avec ses béatitudes surprenantes. Heureux les pauvres, heureux les affligés, heureux les humbles de cœur ou les doux. Ça revient dans les différents sens de ce mot que nous avons lu tout à l'heure dans Sophonie. Vraiment, soyons les humbles du pays. Soyons de ceux-là qui se sentent spirituellement pauvres, qui avons besoin du Seigneur. Mon âme a soif, soif du Dieu vivant. Matthieu chapitre 5, verset 5, « Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre », c'est la citation du psaume 37 que l'on va lire, je vous y invite. Psaume 37, versets 1 à 11. Psaume 37. Psaume 37, verset 1er. De David, ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel, et pratique le bien, et le pays pour demeure, et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel, et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire, car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Et c'est cette citation-là de Matthieu 5, verset 11. Les misérables possèdent le pays et ils jouissent abondamment de la paix. Amen. Les misérables possèdent le pays. Heureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux. Heureux les débonnaires, les misérables possèdent le pays. Et c'est dans un contexte où l'homme de Dieu, David, demande aux chrétiens de tempérer et de ne pas trop se faire du mal avec les incroyants qui peuvent parfois réussir et alors qu'ils ont des procédés et même des actes, des paroles de méchanceté. Et David dit, laisse tout ça. Je pense qu'il y a trop de choses qui alourdissent nos cœurs. Et je pense qu'il ne faut pas regarder à droite et à gauche. Il faut laisser tout ça. Il faut laisser tout entre les mains du Seigneur. Garde le silence devant l'Éternel. Mets ta confiance en lui. Pratique le bien. Laisse la colère. Et à la fin, la conclusion de ces conseils sur ces méchants, orgueilleux, puissants peut-être, c'est « Mais les misérables, ils vont posséder le pays. » Alléluia. Nous, c'est pas grave qu'on réussisse, qu'on réussisse pas. Ce qui compte, c'est d'avoir la vie éternelle. C'est de posséder le pays. C'est d'aller auprès du Père. Alléluia. C'est ça qui compte. Je crois qu'il ne faut surtout pas que la terre nous enlève l'espérance des cieux. On lit dans Luc chapitre 14, versets 15 à 24. Hein, on fait pas mal de lectures ce matin. Luc chapitre 14, verset 15. Luc 14, verset 15. Jusqu'au verset 24. 14, verset 15. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus : Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui répondit : Un homme donna un grand repas, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux conviés : Venez, car tout est déjà prêt. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit : J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit : J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit : Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur : Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit : Maître, ce que tu as ordonné a été fait. Il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur : Va dans le chemin et le long des, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. Amen. Alors là aussi, vous avez compris pourquoi j'ai pensé à cette parabole. Parce qu'en fait, ceux qui au final vont avoir part au banquet du salut, ce sont les pauvres. C'est des catégories de personnes qui ne sont pas très reluisantes. Au départ, qu'est-ce qui crée l'obstacle justement au salut, à la participation de ce repas ? 3 choses, les richesses, j'ai acheté un champ, je dois aller le voir. C'est une passion, c'est une nécessité, c'est une urgence, il faut que je regarde ce que j'ai acheté. Les richesses. Deuxième chose, le travail. J'étais père de bœufs, il faut que je bosse. Le travail, le travail. Beaucoup de gens vivent pour le travail et ne se préoccupent pas de servir Dieu. Troisième situation, la famille. Je viens de me marier. D'autres vivent prioritairement pour la famille. Et au fond, ces gens qui avaient quelque chose, qui avait un champ, qui avait des paires de bœufs, qui avait un bon mariage. Ces gens qui avaient quelque chose ont dit non à l'invitation de Dieu. Ce sont ceux qui n'avaient rien, qui ont répondu à l'appel. Et ceux-là, ce sont lesquels ? C'est écrit, on l'a lu, les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. Les pauvres, c'est-à-dire, pour reprendre cette idée de la dette, les pécheurs. Les estropiés, les boiteux, ceux qui marchent mal dans la vie. Les aveugles, ceux qui ne sont pas très intelligents, qui ne comprennent pas beaucoup. Je crois que pour venir au Seigneur, il ne faut pas être un bien portant. Il n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour les malades. Christ est un sauveur. Il est venu sauver des pécheurs. Et si nous ne sommes ni pauvres, ni estropiés, ni aveugles, je crains que la grâce de Dieu passera à côté de nous. Vous tous, les humbles du pays, cherchez l'Éternel. Et peut-être, la colère de Dieu ne fondra pas sur nous. Il est écrit dans Ésaïe 55, « Venez, même sans argent, sans rien à payer, venez acheter et manger. » Et Ésaïe 55, c'est tout le récit du banquet du salut qui ressemble à cette parabole. Pauvres, estropiés, aveugles, boiteux. Alors je sais que c'est peut-être pas très élogieux pour nous tous, mais je crois que le jour où on est riche, alors peut-être que nous nous trompons. Tu dis, je suis riche, mais tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Que le Seigneur fasse de nous, de ces humbles du pays, qui n'ont comme seul secours chercher le Seigneur, comme seul trésor, sa présence et sa parole. Alors, tout cela étant dit, il est écrit, ce n'est pas volontiers qu'il humilie, qu'il afflige les enfants des hommes. Nous ne devons pas croire que Dieu se plaît à nous conduire parfois dans d'affreux déserts. Mais ce n'est pas Dieu, c'est nous qui ne comprendrons pas certaines choses. Il y a peut-être quelqu'un qui est venu dans l'assemblée ce matin, qui ne comprend pas que sa vie, c'est une succession de malheurs, une succession de difficultés. Et je me souviens autrefois, avant d'être chrétien, pourtant j'étais jeune, mais j'avais le sentiment d'avoir la poisse sur moi, d'avoir comme une malédiction, parce que je ne m'en sortais pas. J'avais beau essayer de me débattre, ça n'allait pas. Jusqu'au jour où j'ai entendu l'Évangile, où j'ai cru, ma vie a été complètement changée. À partir de ce moment-là, j'ai compris que si Dieu m'avait fait passer par bien des difficultés, c'était pour préparer mon cœur à entendre l'Évangile et à l'accepter. Alléluia. Alors ce matin, vous pourriez peut-être comprendre que ce n'a pas été de gaieté de cœur que Dieu a permis bien des souffrances et des épreuves dans votre vie. Mais il ne l'a jamais fait pour vous perdre. Il l'a toujours fait pour vous sauver. Et aujourd'hui, c'est le jour du salut. Si vous croyez dans votre cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et si vous le confessez de votre bouche, vous serez sauvés. Alléluia. Et toute la vie se comprend après. Il y a plein de choses qu'on subit. Mais quand on se convertit, on est guéri. Parfois, des pires choses, des chrétiens pourraient témoigner, alors comme il y a de la décence, ils n'entrent pas dans certains détails, mais des drames dont on ne se remet jamais normalement. Mais quand on se convertit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. On est guéri. Nous avons la guérison dans les meurtrissures de Jésus. Merci Seigneur. Et à partir de ce moment-là, nous nous soumettons, nous acceptons tout ce qui a pu se passer dans notre vie. On va terminer avec Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 11, s'il vous plaît. Pour voir qu'en fait, c'est vrai que nous, parfois, il faut connaître des chemins difficiles, des chemins de pauvreté pour chercher le Seigneur. Mais nous ne devons pas oublier que Jésus-Christ, le Seigneur lui-même, a accepté cela. Philippiens chapitre 2, verset 6. Il est dit, Philippiens 2, 6. Existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, d'esclave, hein, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Je termine en vous parlant de la pauvreté de Jésus-Christ. Il est écrit qu'il nous a enrichis alors qu'il était pauvre. La pauvreté de Jésus-Christ, l'appauvrissement de Jésus-Christ. Israël, dans le désert, n'avait pas d'autre choix. Dieu les a conduits dans ce désert et c'était comme cela. Mais le Fils de Dieu était dans la gloire. Il était égal à Dieu. Vous savez, Jésus, ce n'est pas seulement un homme. Jésus, ce n'est pas quelqu'un qui, en naissant, a existé. Il existait avant sa naissance. C'est la seule personne humaine qui avait une préexistence. Parce que Jésus est à la fois homme et tout autant Dieu. Jésus, c'est Dieu fait chair. C'est la réunion de Dieu et de l'homme. Et la Bible nous dit qu'il était avec Dieu, qu'il était égal à Dieu, et qu'il a accepté de descendre de son ciel, de tout perdre, de se faire pauvre, d'être humilié, et même de descendre, bien qu'il s'était élevé, jusqu'à la mort infamante de la croix. Il est né comme un malheureux, un pauvre, et il est mort comme un criminel. Et tout cela pour nous, pour toi. Alors que nous, à cause de nos péchés, nous ayons connu la pauvreté, c'est justice, comme dira l'un des brigands sur la croix. Mais pas pour lui. Il l'a fait parce qu'il nous aime et parce qu'il a voulu accomplir la justice de Dieu. Alléluia. Alors l'Écriture dit, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Avant d'être élevé, il faut accepter d'être humilié. Parce qu'il a accepté cette humiliation, Jésus-Christ est vivant, il est dans les cieux, il a le nom qui est au-dessus de tout autre nom, il est le Seigneur. Alléluia. Dieu soit béni. Alors je me dis que si le Fils est passé par là, il nous a dit que le disciple n'est pas plus grand que le maître. Amen. Quelques réflexions donc sur les humbles du pays, sur la volonté de Dieu qu'il n'y ait pas de pauvres, mais en fait, il y en aura quand même, et qu'il faut certainement entre pécheurs s'entraider. Et puis, ce conseil, que nous fassions attention quand même de ne pas nous laisser piéger par les richesses, et que ce qui compte dans la vie, c'est d'avoir une vie qui nous permette surtout de le servir. Alléluia. Et au fond, dans cette vie où il peut y avoir des affreux déserts, ce qui compte, c'est ce que Dieu va faire dans nos cœurs. C'est que nous apprenions de plus en plus à ce que sa parole soit notre richesse, soit notre trésor. Alléluia. Et enfin, peut-être pour quelqu'un, de comprendre que toutes les humiliations, les pauvretés, les difficultés qu'elle a vécues, c'est parce que Dieu veut te sauver. Et pour te sauver, il a donné un sauveur qui est descendu et qui est mort humilié, mais qui maintenant est glorifié. Alléluia. Si nous voulons être glorifiés, il faut accepter de s'humilier par la repentance de nos péchés et de demander à Jésus-Christ d'être notre sauveur. Amen.